simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
La rentrée scolaire ne se passe pas bien, mais pas bien du tout. Il règne dans l'éducation nationale un climat de peur, de mépris, qui explique en partie la désertion des profs et les nombreuses grèves. Dans la région parisienne, c'est du lycée Mozart au Blanc-Mesnil, où le proviseur joue les despotes, à Gennevilliers où il n'y a pas assez de profs, ou à Nanterre où un prof de maths est suspendu pendant 4 mois sans motif, que nous irons avec vous aujourd'hui. Les enseignants du lycée Mozart sont en colère. Ils ont entamé une grève d'une semaine à la rentrée scolaire. Cette grève leur a permis d'obtenir le rapport d'enquête du CHSCTD 93 daté du 30 juin 2022 concernant le dont ils sont l'objet, que le professeur était tenu de leur transmettre et qu'il tardait à leur remettre. Le rapport est accablant pour le nouveau proviseur en poste depuis un an. 32 entretiens menés en mai 2022 dressent sur 2,5 pages un tableau sinistre de l'état moral du personnel de l'établissement. Il y est question de souffrance, de crise de larmes, de troubles anxio-dépressifs liés au travail, de pensées très noires, d'un nombre croissant d'arrêts maladie. Il y était décrit un climat anxiogène et toxique. Ces témoignages indiquent clairement comme origine des souffrances l'attitude et la gestion méprisante et maltraitante du proviseur. Les professeurs du lycée Mozart du Blanc-Mesnil demandent la mutation du chef d'établissement. Et là, c'est Sylvie, une ancienne prof de Mozart retraitée depuis 2 ans qui a exercé dans ce lycée pendant 17 ans, qui prend la parole pour ses collègues car ceux-ci ont peur des représailles. Tu as été mandatée par tes collègues pour nous parler de la situation qui règne à l'intérieur.
Ouais, je pense que ça faut le dire parce que je pense que ça en dit déjà long sur la situation.
Quand on connaît la combativité des professeurs du lycée Mozart, on se dit en arriver là aujourd'hui à même pas pouvoir s'exprimer, parler de leur situation, avoir peur de ça, ça veut dire que là, il y a vraiment une terreur qui s'est installée dans cet établissement, incroyable là.
Alors je dirais pas que dans l'établissement, hein, dans l'éducation nationale, mais je pense qu'il va falloir revenir aussi sur la répression un peu générale, parce que ce qu'il leur faut la trouille, c'est l'atmosphère dans l'établissement, mais c'est aussi sous le proviseur précédent, le collègue qui a été convoqué au rectorat, les convocations au rectorat qui pleuvent dans plein de lycées pour des motifs futiles. Si tu veux détruire le service public, il faut te débarrasser des fonctionnaires.
Toi qui as travaillé combien d'années dans ce lycée?
Ça, c'est une bonne question. Il faut que je réfléchisse. Je pense que j'y ai travaillé 17 ans.
bien placée pour parler et pour voir comment la situation dans ce lycée spécifiquement s'est dégradée.
Oui, parce qu'elle s'est dégradée de proviseur en proviseur. Hein. Si tu veux, pour le nouveau, là, celui-là, quand il est venu l'année dernière, il était à la réunion rentrée, le recteur l'a accompagné. Normalement, le recteur ne vient pas. Hein.
On peut peut-être tout simplement commencer par d'abord présenter un tout petit peu le lycée Mozart du Blanc-Mesnil. Il y a combien de profs, il y a combien d'élèves, c'est un gros établissement?
Ben, c'est pas le plus gros, sauf que ben, je pense que je peux le présenter en disant que quand je suis arrivée, il y avait 700 élèves et maintenant il y en a 1200 dans les mêmes bâtiments.
Et au niveau des profs, il y en a combien?
Alors, le nombre exact, là, je sais pas, mais on va dire aux alentours de 80.
Est-ce que toi, tu as vu les effectifs de lycéens augmenter au fur et à mesure des années?
Oui, et ça a été l'objet de nombreuses grèves.
Vous étiez quand même assez à la pointe des mouvements dans les lycées.
Oui, enfin, il y a eu plusieurs sortes de mouvements, mais à une époque, ça a été pour réclamer la création du lycée dans le 93, par exemple. Il y a des lycées en plus dans le 93, puisque tous les lycées débordent.
Suite à ces mouvements et à la destruction du service public, l'année dernière, donc, il y a eu la présentation, comme tu le disais, d'un nouveau proviseur.
Alors, si vous voulez, le proviseur, ça change régulièrement. Hein. Celui-là, ils l'ont bien choisi.
Depuis toute l'année dernière, il y a eu une ambiance absolument incroyable, enfin répressive, à l'intérieur du lycée. Ce qu'on peut dire, c'est le pouvoir complètement dément, enfin quand même assez important, qu'a le proviseur au sein d'un établissement. C'est relativement nouveau.
Absolument, oui. Et si tu veux, il n'arrête pas d'y avoir des décrets de loi qui l'augmentent. Et là, je pense qu'il va falloir rappeler un truc qu'on oublie souvent, c'est que le prof ne relève pas du code du travail. On n'a pas de code du travail. On relève uniquement du tribunal administratif. Et donc, on n'a pas de législation du travail, en fait.
Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le pouvoir qu'a un proviseur au sein de son établissement?
Alors, je vais revenir un petit peu, j'ai beaucoup d'incertitudes. Je pense quand même, je ne vais peut-être pas le dire comme ça à la radio, qu'une partie de son pouvoir, c'est aussi, le fait que les gens s'écrasent quand même. Et alors, il a un pouvoir énorme, hein. En même temps, un pouvoir de plus en plus énorme. En même temps, officiellement, il est limité. Et si tu l'envoies chier, en principe, il ne peut pas t'imposer certains trucs qu'il impose là. Un des trucs qu'il y a cette année, c'est normalement, on ne peut pas t'obliger à être prof principal.
Ouais.
Donc évidemment, il a nommé comme prof principal des profs qui avaient explicitement dit qu'ils ne voulaient pas être prof principal. Et après, il leur a imposé la fonction de prof principal. Il n'a pas le droit. Là, il est clairement hors la loi. Comment est-ce qu'il a fait pour être dans la loi? Il a fait un ordre de mission. Et à partir du moment où le proviseur te fait un ordre de mission, tu es obligé d'exécuter. Là où il est de nouveau hors la loi, c'est que si on te fait un ordre de mission, ça veut dire qu'on te demande du boulot en plus. Donc en principe, on doit te filer de la thune. Et ce qu'il n'a pas fait. Là, il est de nouveau hors la loi. Mais ce que je sais, c'est que les années précédentes, sous des proviseurs précédents, on avait dit qu'en protestation, on allait faire des mouvements où on refusait d'être prof principaux.
Mais il y a aussi un autre problème, c'est celui de l'emploi du temps.
Ah oui, alors, ah oui.
Quand même.
Alors bon. Oui, alors ça, bon, là je crois que ça atteint des niveaux caricaturaux et c'est aussi des emplois du temps de merde pour les élèves. Parce que de base, tu peux pas faire un bon emploi du temps pour les élèves et un bon emploi du temps pour les profs.
C'est compliqué quoi. Mais bon, ouais. Après, ça peut s'arranger au mieux, ce qui n'est pas le cas
là. Ce qui n'est pas le cas là, puis là surtout, il fait un truc, il y a eu un vote au dernier conseil d'administration avant les vacances, opposé à l'instauration de la journée continue au lycée. L'opposition l'a emporté parce que c'était une opposition des représentants des parents, des représentants des élèves et des représentants des profs. Et à l'entrée, les emplois du temps, c'est avec une journée continue.
C'est quand même un pouvoir considérable parce que ça veut dire que là, il va te faire une année pourrie s'il a envie. C'est-à-dire te faire travailler un peu le matin, un peu l'après-midi, un peu ci, un peu ça, et pas te laisser.
Il a même mis des cours le samedi après-midi. D'accord. Je pense que les parents aussi doivent être très contents.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que les professeurs du lycée Mozart ont demandé au CHSCTD du 93 de faire un rapport. Donc, ces inspecteurs ont auditionné 32 professeurs pour comprendre le problème qui se passait dans ce lycée.
Alors, le rapport, il est un peu minable, hein, en fait. Mais les seules choses qui sont publiques, en principe, dans un rapport, ce sont les préconisations, qui sont assez minables, mais que, évidemment, le proviseur n'a même pas respecté. Il y a eu aussi un CHSCT national. Donc, le ministère est au courant. Un CHSTT, tu sais, c'est un organisme paritaire. Mmh. Donc, sont représentés les syndicats et la direction. Ce que demande le CHSTT, c'est minable. Mettre en place un vrai dialogue entre la direction et les enseignants pour apaiser les tensions. Mmh. Respecter le travail et la liberté pédagogique des enseignants au lycée. Respecter le cadre du conseil d'administration, la normalisation des relations. La direction doit utiliser un langage adéquat et respectueux à destination des personnels. La direction doit respecter la réglementation et les droits concernant la fonction de professeur principal. Enfin, c'est pas terrible, quoi.
Ouais, c'est pas...
Mais bon, pour un CHSCTD, ça va très loin. Hein. Tu connais l'atmosphère feutrée de l'administration.
En tous les cas, ce que demandent les professeurs du lycée Mozart pour le moment, c'est une mutation du chef d'établissement avec lequel ils peuvent absolument pas travailler à l'heure actuelle.
Il y a un autre lycée qui est le lycée Blum à Créteil. Qui sont en grève depuis 15 jours sur les mêmes revendications.
Je voulais juste revenir aussi sur toute cette année dernière qui a conduit au fait que le CHSCTD, etc., ait été sollicité. C'est que quand même, il y a eu à la fois des poursuites par rapport à des professeurs sur des motifs complètement fallacieux, mais aussi des professeurs qui ont complètement craqué, qui ont fait des burn-out.
Oui. Ça, c'est aussi un aspect que je voudrais apporter dans l'interview et qui m'a vachement impressionné la dernière. Normalement, c'est du, on peut parler de harcèlement, hein, on est d'accord. Mmh. Normalement, tout ce que t'entends sur les histoires de harcèlement au boulot, c'est que les gens sont un peu isolés de leurs collègues. Là, les gens sont pas isolés de leurs collègues. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et pourtant, ils craquent quand même. Alors, les craquages, je peux pas être extrêmement précise parce qu'ils m'ont pas donné. Moi, je voulais des dates et les faits, ils m'ont pas trop donné, mais il y a au moins deux trucs. Il y a d'une part qu'il y en a un qui a atterri aux urgences psychiatriques, quand même, suite à une inspection. Bon, il n'est pas resté longtemps, hein, en fait, en 24 heures. Mais, enfin, je veux dire, c'est ce qu'on appelle un truc grave. Et il y a énormément d'arrêts maladie pour souffrance au travail. J'ai été au rassemblement. Il y a eu plusieurs rassemblements organisés au rectorat, à la DSDEN, enfin au truc départemental, pour être reçus. Et j'ai jamais vu autant de collègues en larmes.
Et puis il y a eu aussi des poursuites.
C'était le proviseur précédent.
Donc ça veut dire que la répression, elle était déjà là depuis un moment.
Oui, absolument. Absolument, oui. Enfin, je veux dire, elle est dans toute l'Île-de-France, elle est dans toute l'éducation nationale.
Qu'on a vu énormément de professeurs aller en conseil de discipline, se retrouver avec des suspensions de travail.
Et avec des trucs quand même hallucinants, parce que tu vois, là, le truc de Kaïté-Rabat, la suspension, c'est pas considéré comme une sanction. C'est-à-dire qu'on va le déplacer pour nécessité de service. Donc c'est pas une sanction. Donc il n'y a pas besoin de conseil de discipline et il n'y a pas besoin de le motiver. C'est là qu'on voit que ça compte, qu'on n'a pas de code du travail.
Un certain nombre de professeurs au lycée Mozart sont en grève.
Ils ont fait grève une petite semaine. Ils ont repris le boulot, mais enfin, ils ont écrit au ministre. Ils ont, on va dire, momentanément repris. Et l'année dernière, ça, on peut dire aussi, l'année dernière, quand ils ont été au rectorat, ils ont été contactés par les profs du lycée précédent, de ce proviseur, où il y avait une atmosphère de terreur abominable, et avec les gens qui suppliaient, et ils avaient encore peur après son départ, et avec les gens qui suppliaient, qui parlent de leur cas en même temps au rectorat. Évidemment, le rectorat n'a pas entendu parler de rien.
Comment toi tu vois qu'un proviseur peut instaurer à ce point la peur dans le ventre de ses profs?
Je dirais que c'est, il y a la peur ou il y a la souffrance, autant la souffrance que la peur. C'est-à-dire qu'il humilie les gens, ils se foutent de leur gueule et ils se foutent de la gueule du contenu de leur boulot. Or, ce qui fait vivre les profs, ce qui fait que, malgré les sales salaires, les conditions et tout, ils continuent, c'est une espèce de vocation. Alors, vocation, c'est un mot que j'aime pas, mais ils essayent de faire bien leur boulot, ils sont convaincus de l'utilité de leur boulot. Et c'est ça qui est attaqué, remis en cause par le proviseur Rizot, un peu l'illusion d'une administration qui est là pour faire tourner le lycée. Donc, si tu as des projets avec les élèves, pour tout ce qui est projet, tu es obligé d'avoir une autorisation du proviseur. Donc, l'illusion que tu peux aller voir le proviseur avec des arguments rationnels pour pouvoir faire le projet que tu veux faire avec les élèves. Sur tous les trucs que tu essayes de faire. Et disons que les lycées, ça fonctionne en partie en co-gestion, c'est-à-dire que c'est le proviseur qui a l'autorité, mais généralement la pratique, c'est-à-dire même si dans les textes c'est le proviseur qui a l'autorité, la pratique, c'est à ce qu'on appelle des conseils d'enseignement, des coordinateurs de matière, et par matière, les profs vont trouver le proviseur et dit voilà, on pense que comment on répartit les classes entre les profs, ça devrait être ça, 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 on suggère que ça, 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 et généralement, les proviseurs font ce que proposent les profs, surtout que ça simplifie énormément le travail. Ils ont fait un énorme travail de compter les heures, qui ont fait telle répartition de classe, ça fait combien d'heures à chacun et tout. Donc, ils ont fait une partie du boulot du proviseur, en fait. Et généralement, les proviseurs reprennent ça. Et là, une des façons de casser les profs, c'est de systématiquement casser ça. Ah, vous voulez que machin est déterminable, ben on va lui mettre des secondes.
Vous voulez faire telle activité, telle sortie, ce sera non.
Voilà. Oui, ça va être transformé en un autre truc. Ça sera oui pour vous, mais alors, du coup, on peut pas faire ça avec tel autre.
Ouais, donc la concurrence entre les profs.
Et entre les matières. Et essayer de culpabiliser les profs entre eux.
Que tu as vécu là en 17 ans de carrière, entre autres dans le même lycée, c'est vraiment une dégradation à la fois en termes de nombre d'élèves, visiblement quand même l'établissement est relativement pourri, des rapports dégueulasses avec le proviseur, tout ça dans une partie de la banlieue qui nécessiterait une attention particulière.
Oui, c'est ça, oui. Ce qui sauvait ce lycée, c'est que c'était un lycée avec de bonnes relations entre collègues et avec de bonnes relations entre profs et élèves. Ce qui n'est pas donné d'avance dans le 93 Nord, quand même. C'est ça qui est en train de se casser aussi. Parce que, si tu veux, ce qui rendait le boulot, qui fait que j'ai jamais demandé ma mute et tout, c'est que tu avais une salle de profs. Oui, il y en a toujours qui se tirent dans les pattes. Mais en gros, quand tu avais des soucis, tu pouvais en discuter. Et tu avais des élèves que tu avais plaisir à retrouver et qui avaient plaisir à te retrouver. Donc ça rendait le boulot agréable, quoi. C'est ça qui est en train de se casser. Il y avait une confiance entre les profs et les élèves. Je te dis pas entre tous les profs et tous les élèves, évidemment. Mmh. Ça, c'est le genre de truc qui n'existe pas. Mais il y avait une atmosphère globale de confiance.
Ça explique le manque de personnel et le fait qu'il y a beaucoup de profs, d'instits, qui démissionnent, qui se barrent.
Oui, surtout que les maltraitances continuent. T'as tout un discours à la télé disant ils vont augmenter les profs débutants. Enfin, dans un an quand même, pourquoi ils ne font pas maintenant? Mais la maltraitance de ceux qui arrivent continue. Les nommer dans une région où ils veulent pas aller, alors qu'il y a des besoins là où ils sont, tous ces trucs-là continuent.
Ouais, ou des profs qui sont tout à fait qualifiés, qui ont le diplôme et qui ne sont pas affectés. Enfin, il y a tout un tas de trucs assez incompréhensibles là.
Tous ces profs non affectés et tout. Il y a aussi qu'ils ont supprimé le paritarisme. C'est-à-dire qu'avant, les mutations et les affectations, ça passait devant les commissions paritaires, où il y avait l'administration et les syndicats. Ça veut dire que les trucs étaient vérifiés. Je ne sais pas si ça allait très loin, mais c'était vérifié le système des points et tout. Ils ont supprimé ça. Donc, à mon avis, il y a aussi des erreurs. Et tu connais l'administration, l'administration ne se trompe jamais. Donc, il y a un certain nombre d'erreurs, comme il n'y a plus de contrôle qui sont faites, et puis après, ils appliquent les erreurs. Donc, il y a aussi ça, je pense. Et puis, pour moi, il y a une volonté de destruction systématique. décoré un peu le même processus qu'à France Télécom. À France Télécom, il s'agissait, le harcèlement, il s'agissait de faire partir les fonctionnaires pour avoir les gens de statut privé. Ben là, il s'agit d'écœurer les titulaires, les fonctionnaires et les contractuels. Ben pour moi, il y a un truc comme ça. Ça n'a aucune logique. Ils se plaignent de manquer de profs. Et vas-y, que je te continue toutes les conneries qui ont toujours été dénoncées et qui sont faciles à éviter. Ce proviseur-là, c'est emblématique. Notre collègue qui a été envoyé, qui est parti aux urgences psychiatriques, donc il avait une inspection. Alors d'abord, histoire de bien l'inspection, elle était de 17h à 18h le vendredi. J'imagine l'état des élèves et des profs le vendredi de 17 à 18h.
Hein. En fin de
c'est
semaine.
La meilleure heure pour inspecter quelqu'un dans une classe plutôt difficile. Enfin, lui, il a de bons rapports avec toutes les classes, mais dans une classe réputée difficile. Les proviseurs peuvent, s'ils le veulent, assister aux inspections. Des fois, ils le font, des fois, ils le font pas. Donc, lui, il le fait systématiquement. Et alors que le collègue était envoyé aux urgences psychiatriques, il a tweeté le proviseur pour se foutre de la gueule de son cours.
Du prof et de son cours.
Voilà, ça te dit le mec, quoi. Mais l'administration le savait avant de le nommer au lycée Mozart, puisque on a les témoignages du lycée précédent et même du lycée d'avant. Ils étaient au courant. Donc ils ont choisi de nommer à Mozart un type qui a ce profil-là. Visiblement, c'est une technique de management, en fait. De plus en plus de proviseurs avec ce profil-là.
C'est des techniques de management pour faire le ménage et, comme tu le dis, pour virer les profs titulaires et puis en mettre de droits privés avec beaucoup moins de droits, de salaires et de compétences souvent, mais bon, pas toujours.
Souvent aussi quand même, parce que si tu veux, l'inconvénient des gens qui ont des compétences, c'est qu'ils ont des arguments pour refuser certaines choses. Là, à l'éducation nationale, visiblement, en tous les cas, dans les coins comme le 93, si au bout du compte, le boulot n'est pas fait, tant mieux. Hein. Parce que là, visiblement, moi je m'en fous, hein, étant plus prof, je peux le dire, visiblement, son boulot, c'est plein de vert. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une intervention sur l'éducation nationale, il est chaperonné par quelqu'un, hein, pour le moment. C'est jamais lui qu'on entend. Mais si tu prends Blanquer, si tu prends Macron, si tu prends des gens comme ça, ce sont des gens qui n'ont connu que la scolarité dans le privé, puis les études anglo-saxonnes. Ils savent même pas ce que c'est une école. Pour eux, le modèle de scolarité, c'est le modèle anglo-saxon. Il faut quand même redire qu'il y a une atmosphère généralisée de répression dans toute l'éducation nationale, avec, je dirais, un peu... Moi, je vois deux sortes de répression. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais tu as d'une part un truc généralisé, tel qu'ils font au lycée Mozart pour intimider le personnel. Hein. Je ne vois pas d'autres termes. Et puis d'autre part, des cas de répression emblématiques, ce coup-ci pour dégommer les syndicats, et en fait essentiellement Sud. Blanquer a essayé de faire interdire Sud-Éduc 93. Kaïté Rada, le professeur qui a été suspendu dans le 92, c'est un militant de Sud. Et donc, il y a aussi, c'est pas le cas du lycée Mozart, hein, du tout. Il y a aussi une répression qui est ciblée sur les militants de Sud. C'est-à-dire, une répression antisyndicale. Pas à Mozart, c'est la répression, le harcèlement, la maltraitance, elle touche aussi bien des gens qui étaient habitualités que des gens qui n'étaient pas spécialement dans le collectif de lutte. Mais je pense qu'il y a un peu ces deux axes, tu vois. D'une part, dégommer un certain type de syndicat, le syndicat le moins congestionnaire, on va dire, et d'autre part, une intimidation générale du personnel. Et puis signaler, parce que c'est pas tellement paru dans les médias, qu'il y a eu en fait pas mal de grèves hein, à la rentrée. Il y a eu plusieurs lycées du 93 en grève, plusieurs collèges du 93 en grève, et peut-être dans les autres départements, mais moi je suis au courant que de la situation dans le 93. Et il y a actuellement des lycées et des collèges du 93 en grève, généralement sur les histoires de postes non pourvus, de classes en sureffectif et d'emploi du temps de merde.
Inter, le dimanche 4 septembre, trois jours après la rentrée des classes, un enseignant de mathématiques du lycée Julio Curie de Nanterre, M. Kai Terada, a pris connaissance d'un arrêt de suspension de fonction le concernant pour 4 mois. Aucun motif ne lui a été communiqué pour justifier cette décision. Même la direction du lycée n'en était pas informée. Kai Terada est un militant sud-éducation, co-secrétaire départemental du syndicat dans les Hauts-de-Seine. Travaillant au lycée Julio Curie, depuis 2007, il a participé et animé de très nombreuses luttes locales et nationales. Il a notamment été l'une des figures de proue du mouvement « Touche pas à ma ZEP » pour la défense de l'éducation prioritaire dans les lycées. Au quotidien, il est inlassablement engagé pour l'amélioration des conditions de vie des personnels et des élèves. Il est en particulier un membre actif du réseau Éducation sans frontières qui défend les droits des mineurs non accompagnés et des jeunes sans papiers.
Bonjour, nous sommes le mardi 13 septembre 2022 devant la préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre, plus précisément devant la DSDEN, l'organisme chargé des profs dans les départements et donc dans le département des Hauts-de-Seine. Et je suis avec un camarade de Sud Éducation qui va nous expliquer pourquoi nous sommes là.
Alors bonjour, moi je m'appelle Elvis, je suis professeur des écoles à Nanterre et militant du syndicat Sud Éducation 92. On est là nombreux pour protester contre la mise à pied conservatoire que subit notre camarade Kai Terada, qui est professeur au lycée Julio Curie, qui est à 2 pas de la DSDEN. Il a pris ça le jour de la rentrée quasiment, de la pré-rentrée.
La veille, je crois, un dimanche.
Ouais, Et le problème, c'est que ce qu'on constate, c'est que c'est une procédure qui est totalement arbitraire. C'est contre ça notamment qu'on proteste, parce que non seulement Kai n'a pas obtenu les motifs de la mise à pied, mais en plus son dossier administratif, le volet disciplinaire, son dossier administratif est totalement vide. Il l'était encore jeudi dernier. Donc c'est-à-dire que dans son dossier, il n'y a absolument rien qui puisse étayer, qui puisse justifier une quelconque mise à pied et encore moins une sanction. Et en plus, le DRH du rectorat lui a très clairement notifié jeudi dernier, quand il l'a reçu au rectorat, qu'il n'avait commis aucune faute. Or, les textes législatifs disent qu'il faut qu'il y ait une faute grave en plus pour qu'il y ait une suspension. Il a été suspendu sans faute grave et même sans faute. Voilà, on lui reproche certains manquements et notamment d'outrepasser ses mandats syndicaux. Nous on estime qu'il fait pleinement ses mandats syndicaux. Hein. Kai Terada, c'est un militant de notre syndicat depuis très longtemps, il est au lycée depuis 2006. Il a su depuis à peu près cette époque-là et il est de toutes les luttes, que ce soit dans l'éducation, en défense des mineurs isolés étrangers, des sans-papiers en général, des luttes interpro aussi de tous les secteurs, de la poste et de la santé et bien d'autres. Et il continuera à l'être, en fait, c'est ça, c'est casser un représentant syndical très actif, connu de tous au niveau national quasiment, pour déstabiliser les luttes dans ce lycée, parce que c'est un lycée qui se mobilise très très souvent et pour cause. Donc on continuera à se mobiliser. Il y a le ministère, on sera devant le ministère le mercredi 21 septembre, a priori à 15h, horaire à confirmer. On sera beaucoup plus nombreux. Et voilà, ce qu'on veut dire, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'est une lutte à vocation nationale, c'est une lutte qui va se nationaliser parce que c'est au-delà de Kai. Kai n'est que le dernier d'une longue liste de réprimés dans l'éducation nationale.
Pense au lycée Molière du Blanc-Ménil.
Oui. Il y a aussi la MEL à Poitiers, il y a Bobigny, l'école Marie Curie, le Collège République, l'école Pasteur à Saint-Denis et plein d'autres, Bordeaux, Strasbourg, enfin il y en a énormément. Il y en aura probablement d'autres si on n'arrête pas ça, et l'objectif de Kai notamment, c'est vraiment de rassembler tout ce petit monde-là et de mettre un frein, enfin même un stop carrément à cette répression dans l'éducation nationale qui fonctionne avec l'arbitraire le plus absolu, comme je l'ai expliqué, et contre lequel on n'a pas de prise, hormis se mobiliser comme on le fait et le plus possible via les pétitions, la cagnotte, la grève reconductible au lycée Julio Curie et ailleurs, et les multiples rassemblements et manifestations de tous ordres pour visibiliser tout ça au niveau national.
Alors, avant de revenir sur les différents types de mobilisation pour Kai, qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette notification qui est tombée le jeudi d'avant la rentrée ?
Quasiment rien. Il y a écrit qu'il est mis à pied pour 4 mois avec traitement, que ce n'est pas une sanction disciplinaire.
Donc en gros, on le met à pied, on lui verse son salaire, Et que ce n'est pas une sanction, en fait.
Et il ne sait pas pourquoi. Il a beau le demander, enfin, le rectorat a accepté de le recevoir jeudi dernier pour lui expliquer à peu près ce que je vous ai dit, rien de plus. Et donc, toujours pas lui dire les motifs de sa suspension. Et lui dire même très clairement qu'ils n'ont pas grand-chose à lui reprocher à part quelques... Par d'ouvrir sa gueule, en fait, ils ne l'ont pas dit comme ça. Mais, ils disent très clairement que leur objectif, c'est de ramener la sérénité dans le lycée. Ils se basent en fait sur une inspection.
Une prise de parole syndicat.
Ouais, oui, comme ça a été le cas pour plein d'autres. Voilà, sur une inspection à 360 degrés, c'est comme ça qu'ils appellent ça, qui a eu lieu l'année dernière, sur des principes assez fallacieux de laïcité entre élèves. Enfin voilà, c'est des épiphénomènes. Ils ont enquêté, ils ont reçu à peu près tout le monde, sauf Kai d'ailleurs. Hein. Kai n'a pas été reçu par cette mission d'inspection du rectorat. Ils ont choisi quelqu'un. Pour le casser, pour déstabiliser l'ensemble des mobilisations, que ce soit dans le lycée et dans le département et dans l'éducation en général. Quoi.
Alors c'est quoi ces inspections à 360 degrés et est-ce que c'est fréquent ?
Ça commence à devenir fréquent. Nous, on découvre un peu, mais ça fait quelques années. J'ai l'impression que ça commence à se généraliser un peu depuis la lutte contre les E3C. Qui a eu lieu en 2019-2020.
Les E3C, tu peux rappeler.
Ce sont les épreuves de contrôle continu de connaissances qui ont été mises en place dans les lycées par Blanquer. Et donc, en fait, la fin du bac national est un bac passé essentiellement via le contrôle continu, en fait.
D'accord. Et donc, c'est
contre lesquels beaucoup d'enseignants et d'enseignantes se mobilisaient. Et il y a eu le cas de répression à Bordeaux,
à Mel,
à Molière, c'est sur ces cas-là, avec des élèves enfermés dans les salles pour être obligés de composer.
Et ça consiste en quoi, ces inspections à 360 degrés ?
Nous, on appelle ça un audit. Donc, on va un peu sur le principe d'une audit dans une entreprise privée, quoi. C'est des gens encravatés qui viennent du rectorat, qui n'ont jamais mis le pied dans l'établissement et qui viennent enquêter, donc qui viennent interroger les enseignants et les enseignantes par petits groupes, quels qu'ils soient, les profs ou les non-profs, les assistants d'éducation aussi, les parents d'élèves, les élèves, sur un prétexte qu'ils ont choisi. Et à partir de ça, ils font un rapport. Ils ne communiquent pas le rapport, parce que Kai n'a pas eu, malgré sa demande, il n'a pas eu la communication des rapports de cette inspection.
Les syndicats n'ont pas accès à ce rapport ?
Pour l'instant, non. Et comme je dis, Kai, c'est quasiment le seul du lycée à ne pas avoir été interrogé par cette mission d'inspection. Et pourtant, ils se basent sur ces rapports-là pour le mettre à pied.
Et les profs, s'il y en a un, et les profs syndicaux à la CGT, ils ont été audités. Qu'est-ce que dit la CGT Éducation ?
Je ne connais pas tout.
Et la FSU ?
Passé, mais la plupart des autres, que ce soit des syndiqués, des militants syndicaux ou pas, hein, dans le lycée, ont été interrogés. Ouais, et alors là, il y a une union syndicale qui est donc de Sud Éducation, CGT, SNES, FSU et FO, qui sont présents là à ce rassemblement et qui sont présents au ministère. La parole est unanime. Hein, c'est non à la répression syndicale, que ce soit Kai ou quelqu'un d'autre, et à sa réintégration. Immédiatement quoi. Et la fin surtout de cette politique hyper arbitraire de répression systématique des militants syndicaux et du syndicalisme de lutte.
En fait, c'est de la répression par vengeance par rapport au mouvement contre Blanquer.
Oui, ou en tout cas, c'est une politique arbitraire qui a été mise en place sous Blanquer et qui se poursuit là parce que malgré Pape Ndiaye, c'est les mêmes personnes qui forment son cabinet. Et Blanquer a laissé toutes les personnes qu'il a nommées et donc c'est le même fonctionnement, les mêmes personnes au rectorat aussi, donc c'est le même fonctionnement qui poursuit d'un ministre à l'autre.
Donc en fait, le ministre actuel, Pape Ndiaye, qui a été nommé juste avant les élections législatives, en fait, c'est un pantin.
C'est un peu ça, ouais, c'est un peu bas. C'est pas que pour l'éducation. Hein,
on n'a pas beaucoup entendu.
Non, c'est ça. Non, et en plus, surtout, il a eu un écho plutôt positif parce qu'il s'est démarqué de Blanquer sur la question sociétale. Il est pas raciste, contrairement à Blanquer, pour le dire de façon assez synthétique, pas islamophobe. Donc, il est plutôt bien passé. Puis il y avait la cabale d'extrême droite, donc c'était dur de le critiquer. Mais nous, syndicalement, on le critique quand même parce que les politiques d'éducation sont les mêmes. Le peu qu'il a annoncé, c'est la suite de ce que Blanquer a fait. Blanquer étant la suite de ce qui se passait avant. Et je précise aussi que cette cabale, au-delà du syndicalisme de lutte, au-delà de Kai, au-delà de tous les réprimés, c'est notamment, pas que, mais notamment et pour une grande part une répression et une cabale contre notre syndicat, Sud Éducation. Blanca l'a très clairement dit, hein, Sud Éducation n'est pas républicain, Sud Éducation c'est pas un syndicat respectable, etc. Les Républicains, 5 députés et les Républicains ont essayé de dissoudre notre section départementale du 93. Pour des motifs fallacieux, le tribunal administratif a dit qu'ils avaient tort. Qu'ils étaient dans l'illégalité de faire ça. Donc, on nous a donné raison. Et donc, c'est aussi ça, le côté pratique de, de ces discours-là visant à marginaliser un syndicalisme de lutte autogestionnaire que représente Sud Éducation, qui fonctionne sans concession face à tous les gouvernements, etc. Et qui fonctionne en union, bien souvent et de plus en plus, j'espère, avec la CGT, FO et la FSU.
La dénomination officielle, c'est inspection à 360 degrés, et eux-mêmes le reconnaissaient, c'est vraiment tout nouveau. Mais c'est vraiment pervers comme machinerie, parce que c'est totalement opaque.
D'accord. Voilà. Aucun moyen de savoir pourquoi, non, ni comment.
On n'a jamais eu aucune communication de ce rapport, alors que visiblement, toutes les mesures qui sont prises sont basées là-dessus.
D'accord. Et qu'est-ce que toi, tu as découvert au fil depuis le 4 septembre?
Rien du coup.
Non, mais sur les cas qui t'ont été remontés, etc.
Bon, y a des cas que je connaissais déjà.
Mail, lycée Molière.
Voilà, Collège République à Bobigny, le lycée des Fontaines de Mel, la situation de Noël Bûcher à Dole, Rennes avec Descotes, les camarades de l'école Pasteur à Saint-Denis, Hélène à Bobigny, Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, François Mauriac à Bordeaux, le lycée Thuillier d'Amiens. En fait, quand on commence à faire la liste, c'est impressionnant le nombre de cas qu'on découvre au fur et à mesure.
De cas d'inspection 360 qui débouchent sur des sanctions qui ne sont pas des sanctions.
C'est ça.
D'accord. Dans ton cas, ça fonctionne comment? C'est genre, pendant 4 mois, tu es mis au placard tout en étant payé et ensuite tu t'es muté ou...
Alors, moi, ils ont innové parce que jusqu'à maintenant, ce qu'ils faisaient quand ils suspendaient les gens, c'est qu'à la fin, il y avait un conseil de discipline. Et là, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'il n'y aurait pas de conseil de 10. Il n'y aurait même pas de conseil de discipline. À la limite, moi, je le demande. Hein. Qu'à la place, ils allaient faire mutation dans l'intérêt du service dans la foulée de la suspension. Donc en fait, ma suspension elle va s'achever dans 10 à 15 jours quand je serai reconvoqué au rectorat de Versailles. Et c'est là qu'on va m'annoncer la décision définitive. Et a priori, de ce que je comprends, on s'oriente vers une mutation dans l'intérêt du service. À ma connaissance, c'est la première fois qu'ils font cet enchaînement-là, suspension plus mutation dans l'intérêt du service.
Une mutation, c'est censé être une sanction?
Alors non, parce que ce qui est considéré comme une sanction, c'est la mutation d'office qui est prononcée par un conseil de discipline. Là, ils ne vont pas faire ça. Ils vont faire ce qu'ils appellent une mutation dans l'intérêt du service. C'est la même procédure qui a été utilisée contre les camarades de Bobigny et les camarades de l'école Pasteur. C'est une mutation dans l'intérêt du service, donc ce n'est pas considéré comme une sanction disciplinaire, c'est juste une mesure administrative. Enfin, en tout cas, eux, c'est comme ça qu'ils s'en défendent et c'est comme ça qu'ils font passer ça devant les tribunaux administratifs en disant « mais non, mais c'est pas des sanctions ». Voilà. C'est ça la perversité du système.
Ce qui fait que ça ne peut pas être cassé par le terrain.
En tout cas, jusqu'à maintenant, ce qui est compliqué pour pouvoir contester, il faut que nous, on puisse démontrer que c'est une sanction disciplinaire. Or, comme l'administration refuse d'admettre que c'est une sanction disciplinaire, ça nous enlève tout un tas de moyens de défense, ça ne nous permet pas d'avoir accès aux éléments à charge. On n'a pas droit à un conseil de discipline, donc on n'a pas la procédure contradictoire qu'offre une CAPA disciplinaire. Voilà, c'est à tous ces éléments-là en fait.
D'accord. Merci.
Lycée Galilée de Gennevilliers, la perte d'heures d'enseignement estimée à 54 heures après les ajustements effectués à la veille de la rentrée est catastrophique et porte atteinte à des dispositifs d'accompagnement pédagogique de compensation sociale qui ont fait leurs preuves. Certes, l'ajustement accordé par le rectorat préserve les devoirs surveillés du samedi, mais au total, le compte est encore loin d'y être. On rhabille Pierre après avoir dépouillé Jacques. Il s'agit toujours d'une saignée sans précédent qui demande par exemple de supprimer l'aide personnalisée en mathématiques et en français pour la classe de seconde, mais aussi d'y renoncer totalement en classe de première et de terminale.
Voilà donc ce 5 septembre 2022, on est devant le lycée Galilée à Gennevilliers et aujourd'hui il y a une journée de grève. Alors ça fait un petit moment que dans les lycées et collèges il y a des problèmes de dotation et justement on va en parler parce que c'est un peu aussi l'une des causes de cette grève, mais on va en parler avec une personne qui va se présenter et nous dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Gennevilliers et pas seulement à Gennevilliers je crois.
Oui, bonjour. Je suis Sakina Tarfaoui, professeure de mathématiques au lycée Galilée depuis 6 ans maintenant. Donc la grève d'aujourd'hui, elle tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Elle est la suite d'une longue mobilisation qu'on a déjà eue l'année dernière lors de l'annonce de notre dotation horaire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le rectorat nous donne une dotation pour faire fonctionner le lycée, le nombre d'heures pour faire fonctionner le lycée sur une semaine. On a perdu 70 heures d'enseignement pour une semaine de lycée sur la dotation de l'année dernière, ce qui est énorme. Ce qui nous fait perdre énormément de dispositifs d'aide. Il faut savoir qu'on est un lycée anciennement ZEP, maintenant classé politique de la ville. Voilà, zone d'éducation prioritaire qui a disparu en 2014 pour les lycées. Et maintenant, on est un lycée politique de la ville, prévention violence, mais aussi pôle d'excellence. On a eu ce label grâce justement à ces dispositifs d'aide pour nos lycéens qui sont des lycéens à besoin. Ils ont plus besoin que dans certains quartiers d'avoir des demi-groupes, des dispositifs d'aide, etc. Et il se trouve que là, cette année, c'est une saignée sans précédent dans nos moyens. Et donc, on a la peur de voir notre lycée évoluer sans aucun moyen d'aide pour pouvoir pallier les difficultés souvent sociales de nos élèves. Donc voilà, je ne sais pas après.
Vous avez mis une banderole devant la baisse des budgets à Galilée. Et on voit de 2019 à 2022, effectivement, la courbe. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu justement cette courbe que l'on voit devant nous?
Donc en 2019, cette courbe nous dit que pour faire fonctionner le lycée, on avait 2109 heures pour faire fonctionner le lycée sur une semaine. Et en 2022, on nous propose 1951 heures. Soit un tout petit peu moins d'une perte de 200 heures sur 3 ans, ce qui est quand même assez énorme. On avait fait des calculs, c'est une perte entre 10 et 15% des moyens en 3 ans, ce qui n'est pas négligeable. Ça signifie la disparition des aides personnalisées en mathématiques et en français en seconde et en BTS, la diminution des heures en demi-groupe en mathématiques, en langue, en seconde et en filière technologique. On a énormément de dispositifs, par exemple, de devoirs du samedi matin pour essayer d'entraîner nos élèves pour qu'ils puissent s'insérer plus facilement dans l'enseignement supérieur. Ces dispositifs disparaissent. Du coup, on avait un dispositif d'activités diverses qui sont en fait des après-midi pour les secondes d'activités culturelles pour pouvoir créer des projets. J'ai moi-même fait un projet il y a 2 ans sur les femmes scientifiques avec mes secondes. Ces dispositifs ont eu du mal à pouvoir être renouvelés, si bien que notre lycée on voit au fur et à mesure qu'il se meurtrit, qu'il disparaît et c'est bien dommage parce que nos élèves ont besoin de ces aides-là. Grâce à ces aides-là, on a des résultats excellents. Je le rappelle, on est pôle d'excellence. Donc on a vraiment des très très bons résultats et des élèves qui s'insèrent dans l'enseignement supérieur de la même façon que des élèves dans des lycées privilégiés, dans des quartiers privilégiés.
Alors si je rappelle, on est dans un lycée professionnel et technique.
Tout à fait, et technique et général. Ce qu'on appelle un lycée polyvalent, il y a tout. Il y a professionnel, technologique et général. Il y a les trois pôles de l'éducation nationale qui sont représentés dans ce lycée. Pour toutes ces filières-là, les moyens disparaissent.
Alors ici, on est dans les Hauts-de-Seine. On pourrait dire que les Hauts-de-Seine, c'est bien doté, mais on va dire qu'on est dans une partie des Hauts-de-Seine la plus pauvre, on va dire, ici.
Oui, les élèves ont pour habitude de dire qu'ils sont dans le 93 du 92, ce qui est assez imagé. En fait, on comprend bien ce que ça veut dire. On est dans une commune qui est une commune populaire, comme on peut dire, où les CSP, donc les catégories socioprofessionnelles des parents de nos élèves, sont tout à fait comparables à des lycées du 93, qu'on pourrait appeler des lycées avec des élèves à profil, je ne sais pas comment dire... du profil difficile sur plein de plans différents. C'est pas que les élèves sont difficiles, c'est qu'ils ont plus de difficultés chez eux et on leur offre moins de possibilités de par leur provenance géographique.
C'est sûrement plus difficile qu'à Neuilly.
Tout à fait. Oui. Alors ça, c'était justement un problème aussi l'année dernière au moment de la mobilisation. On a constaté que certains lycées privilégiés dans le 92 ont gagné des moyens, tandis que nous, on en perdait. Donc on a été un petit peu étonnés de voir cette espèce de système de vase communicant qui ne va pas dans le bon sens. C'est-à-dire que donner plus à ceux qui ont plus, ce n'est pas ce qu'on cherche. Voilà.
Vous avez donné des explications peut-être aux lycéens qui sont chez vous, si vous leur avez... Pourquoi il y avait la grève aujourd'hui ? Vous en avez parlé avec eux ?
Oui, on en a parlé lors des réunions d'accueil jeudi et vendredi dernier, de pré-rentrée. C'est les pré-rentrées aussi pour les élèves. Le jeudi et le vendredi, on ne fait pas cours, on leur présente le lycée, etc. Et on les a prévenus. Et on avait l'année dernière le soutien des élèves, des parents d'élèves, de la députée Elsa Fossillon qui est ici, de la mairie de Gennevilliers. Et ce soutien a été renouvelé pour la grève de la rentrée. Donc on est soutenus et tout le monde comprend très très bien ce qui est en train de se passer.
Aujourd'hui, il y a une grève des ATSEM, hein, c'est un mouvement national. Peut-être rappeler ce que c'est les ATSEM.
Alors, les ATSEM, c'est des assistants d'éducation qui sont dans le primaire. C'est en général des femmes, il faut le dire, mais en plus, c'est des contrats très très précaires qui ne sont pas des contrats forcément à temps plein et qui sont vraiment sous-payés par l'éducation nationale. Il en manque énormément cette année pour la rentrée 2022. Et donc les ATSEM se mobilisent pour une revalorisation salariale, mais aussi pour un recrutement massif, et nous aussi un recrutement massif de professeurs. Voilà.
Alors c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire, mais est-ce que vous sentez que la grève va être assez suivie ici au lycée Galilée ?
Alors, on a fait une AG de pré-rentrée le mercredi dernier et nous étions 85 en AG présents, donc sur 128 profs, donc ça veut dire quand même que déjà les gens se sentent concernés. Nous étions 43 à voter pour la grève, 25 à ne pas se prononcer. Je tiens à préciser que les gens qui ont voté de manière à ne pas se prononcer sont aussi des gens qui n'ont pas cours le lundi. Donc on ne se prononce pas sur quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc les 25 personnes qui ne se prononcent pas ne sont pas forcément contre la grève. Il y avait deux votes contre et du coup vous faites la soustraction. Après le reste c'est de l'abstention. Donc on était quand même assez globalement pour la grève. Cette grève a été préparée l'année dernière en fin d'année par les collègues. Nous avions prévenu le rectorat que nous ferions grève si nos moyens n'étaient pas augmentés. Nous avons été reçus l'année dernière deux fois au rectorat sans récupération de moyens. Sur les 70 heures qui nous manquent, le rectorat nous propose d'en récupérer 16, ce qui est absolument pas suffisant. Il faut savoir qu'avec ces 16 heures, on arrive uniquement quasiment qu'à financer le dispositif de devoir du samedi matin, c'est-à-dire qu'on ne récupère pas du tout les moyens de demi-effectifs, etc. Voilà.
Alors, il y a un nouveau ministre, puisqu'il y a eu les années Blanquer, donc qui a été compliqué. Et là, on a un nouveau ministre assez mielleux, Pape Ndiaye. Comment vous voyez un petit peu son arrivée. Est-ce que on a l'impression que c'est quelqu'un qui va essayer d'apaiser un peu les choses, pas faire de bruit. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, alors bon, l'avantage de Pape Ndiaye, c'est que il n'a pas ces petites phrases et ces petits mots blessants que Blanquer pouvait avoir sur les profs absentéistes. La violence verbale de Blanquer envers le corps d'éducation, envers les corps d'éducation, était assez extrême. En revanche, on n'a pas totalement l'impression qu'il ait saisi la gravité de la situation dans l'éducation nationale et qu'il ait envie changer vraiment de cap. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se mouiller pour le moment, qui prend peu la parole, qui est timide dans ses actes et qui n'a pas pris conscience de la gravité de ce qu'il récupère, en fait. Parce qu'il récupère un corps professoral et d'éducation nationale violenté, cassé, fatigué, méprisé, sous-payé. Enfin, j'ai une liste infinie de qualificatifs pour ce qui s'est passé sous Blanquer. Donc j'aimerais effectivement que Pape Ndiaye prenne conscience de ces difficultés-là et qui montre qu'il est solidaire et qu'il comprend nos griefs.
Quelque chose pour y rajouter que l'on aurait oublié ?
Oui, alors si. Je rappelle aussi que donc, nous étions un lycée d'éducation prioritaire qui a perdu son label ZEP en 2014. Nous avions une prime d'éducation prioritaire. Le rectorat de Versailles, je crois le rectorat de Marseille, a décidé de renouveler cette prime uniquement pour les anciens. Donc ça crée des dissensions. Vous imaginez la différence dans la salle des profs. Ceux qui viennent d'arriver dans le lycée ne gagnent pas cette prime et ceux qui étaient là avant la gagnent. Nous demandons donc la pérennisation aussi de cette prime parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand elle va rester et on aimerait que tout le monde touche cette prime dans notre lycée et dans les autres lycées concernés par l'éducation prioritaire.
En tout cas, je vous remercie et puis souhaitons que ça soit victorieux.
Très bien, merci.
Kaiterada, enseignant au lycée Jules-Lecurie de Nanterre, militant syndical Sud Éducation, suspendu sans raison par l'Éducation nationale.
Nous sommes les quatre de Mel.
Sylvie, Sandrine, mais aussi Aladin et Cécile, suspendus 8 mois.
Et sanctionnés pour avoir manifesté contre la réforme du lycée.
Emilio Charino, professeur d'italien, suspendu 8 jours pour avoir alerté sur des dysfonctionnements graves au lycée Louis Tullier d'Amiens.
Je suis Frédéric Anguillem, secrétaire académique de la CGT Éducation. J'ai reçu, comme 5 autres responsables syndicaux du SNES-FSU, de Sud Éducation et de l'UNEF, une condamnation suite à la grève contre les E3C devant le lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.
Christophe.
Olivier.
Enchantillonneur de Jean-Michel Blanquer, citoyen candidat sur le marché de Montargis pendant la campagne des législatives.
Sous le coup d'une procédure disciplinaire engagée par le rectorat d'Orléans-Tours.
Noël Boucher, enseignant à Dole. Après 30 ans de carrière, j'ai été suspendu 4 mois en janvier 2020 pour avoir manifesté contre les E3C. J'ai été blâmé mais réintégré grâce à une large solidarité.
Audemarie Caille, professeur d'histoire, muté d'office pour avoir dénoncé des irrégularités et des problèmes graves de management au lycée Louis Tuyer d'Amiens.
Caroline et Sabine, militantes Sud-Éducation, muté dans le soi-disant intérêt du service il y a 3 ans au Collège République de Bobigny, sans aucune raison. Cyril, militant Sud-Éducation, Collège République, blâmé il y a 3 ans aussi, sans raison valable.
Édouard Descôtes, professeur au lycée Jean Massé à Rennes depuis 21 ans,
syndiqué Ousness-FSU depuis 33 ans. J'ai été muté d'office le 20 août 2021 pour s'être mobilisé contre le bac Blanquer et contre l'expulsion de 4 élèves sans papier et de leur famille.
Tous contre la répression de l'éducation nationale, grève et mobilisation devant le ministère à Paris pour le 21 septembre 2022 à 15h.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est... Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho d'Igarig à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.